Chapitre 5. Aux écoutes, Coyatier dit le marchef, le salon, embouchage de maman Léo. Valentine ne se trompait point. Derrière les rideaux de l'alcôve, il y avait une porte ouverte. Près de cette porte qui donnait dans un cabinet obscur, un homme était debout et se penchait en avant pour approcher ses yeux de quelques trous imperceptibles qui perçaient la draperie à différentes hauteurs. À la lueur vague que les lampes envoyaient à travers l'étoffe, nous aurions pu distinguer les traits et la tournure de cet homme, et notre première pensée eût été d'hésiter entre deux noms. Il était en effet dans la position d'un comédien qu'on surprendrait à l'heure de la métamorphose quand il quitte un travestissement pour en revêtir un autre. L'homme gardait le costume que M. Constant portait tout à l'heure, mais il avait déjà le visage et les cheveux de ce proté bourgeois que nous vîmes un soir changer de peau dans le coupé conduit par Giovan Battista, ce coupé où toulonnait l'amitié était entré avec sa houppelante à large manche et ses bottes fourrées, mais d'où sortit un élégant cavalier en escarpin verni, en habit noir et en gants blancs, qui se fit annoncer à l'hôtel d'Ornans sous le nom de baron de la Perrière. À l'endroit où il était, notre homme voyait parfaitement le groupe formé par la dompteuse et Valentine auprès du foyer. Seulement, il ne pouvait plus rien entendre. Il disait, dans sa mauvaise humeur, « Le vieux baisse, il baisse à faire pitié. Le plaisir qu'il éprouve à tendre des toiles d'araignée devient une maladie, et nous nous réveillerons un matin avec le cou pris dans nos propres lacets. À quoi bon tout cela, puisque le lieutenant demandait du poison, et que personne ne crie gare quand on trouve le corps d'une folle qui a profité du sommeil de ses gardiens pour se jeter tête première par la fenêtre ?» J'ai encore obéi aujourd'hui, j'ai été chercher cette bonne femme, dont la présence est un danger de plus, parce que désobéir chez nous, c'est risquer sa vie, mais ce soir j'ai idée que tout sera fini. Les autres sont du même avis que moi, le vieux a fait son temps, place aux jeunes. » Ce fut en ce moment que la veuve tressaillit pour la première fois en apprenant que Valentine avait vu Maurice. La jeune fille, à la vérité, pallia ce mouvement en faisant semblant de s'éveiller en sursaut, mais le coq était un terrible observateur. J'en étais sûr, pensa-t-il, on se moque de nous, et nous y aidons tant que nous pouvons. La petite n'est pas plus folle que moi. Elle joue son rôle à la perfection, et la voilà commodément établie là-bas, à raconter une histoire qui nous force à tordre un coup de plus, car la bonne femme, en sortant d'ici, saura notre secret. » Son regard se fixa plus aigu sur le groupe qui avait repris son immobilité. Il guetta ainsi longtemps. On peut dire que la veuve et Valentine ne donnaient plus signe de vie. Le coq qui voyait par derrière les belles masses des cheveux de Valentine éparses sur les peaux de la dompteuse en vint à douter de sa première impression. « La grosse est bonne comme du gâteau, se dit-il, et après tout, l'enfant a reçu un fier coup de maillet. » En tout cas, le plus sûr est d'ouvrir l'œil. Qui vivra, verra. Et j'ai idée que ce ne sera pas le colonel. » Valentine, cependant, continuait de parler à l'oreille de maman Léo et disait « Ce fut un matin, en m'éveillant, que je sentis quelque chose dans mon sein. J'y portai la main et j'en retirai la lettre de Maurice. J'étais seul, je pus la lire tout de suite. Ce fut ce jour-là aussi que je crus entendre, pour la première fois, une respiration humaine derrière le rideau qui est au fond de mon alcôve. J'ai tâté plus d'une fois pour tâcher de reconnaître ce qu'il y a derrière la draperie, qui n'a point d'ouverture. J'ai beau repousser le rideau et allonger le bras, je n'ai jamais pu rencontrer de muraille. Qui avait apporté la lettre? Je songeais d'abord à Francesca, dont l'affection pour moi ne s'est jamais démentie, et qui aimait tendrement, remis, mon frère. Je ne peux pas tout dire en une fois, bonne Léo, dit-elle ici en s'interrompant. Vous saurez l'histoire de remis en même temps que la mienne. Ce n'était pas Francesca Corona qui avait apporté la lettre, car elle me croit, comme les autres, privée de raison. Je n'ai pas osé me confier à elle. Ce n'était pas non plus Victoire, ma femme de chambre, qui était à vendre et qu'ils ont acheté. J'allais jusqu'à penser que la marquise elle-même, ah, pauvre femme, elle serait bien près de sa perte si elle donnait une pareille marque de clairvoyance. Elle n'est protégée que par son aveuglement. Ce n'était pas la marquise, ce ne pouvait être elle. Du premier coup, j'avais reconnu l'écriture de Maurice. La lettre disait « En dehors de toi, il n'y a au monde pour m'aimer que l'excellente maman Léo. Ma famille ignore peut-être où je suis, et que Dieu le veuille, mais si mon père et ma mère m'ont oublié, moi je pense à eux sans cesse. Je ne veux pas que le nom de mes frères et sœurs soit déshonoré. Cherche, maman Léo, trouve-la, et fais qu'elle m'apporte du poison. Je ne suis pas au secret, on peut me voir. » On pouvait le voir. Dès lors, il n'y eut plus pour moi qu'une seule pensée. Mais à qui se fier dans cette maison? À tout le monde, sans doute, et au premier venu, car la lettre n'était pas tombée du ciel à mon chevet, et tout le monde, excepté la marquise, m'eût aidé à faire ce que la lettre me demandait. Cependant, je partageais en deux ma confiance. Je manifestais publiquement le désir de vous voir, et en secret d'agir par moi-même. Ils vous ont cherché, ils avaient intérêt à vous trouver. Ils comptent sur vous pour me convertir au projet d'évasion, et ils comptent sur moi pour décider Maurice à se laisser faire. Je n'essayais même pas de concilier cela avec la croyance où ils sont par rapport à ma prétendue folie. J'ignore si j'ai réussi à les tromper. En tout cas, leur chemin est tracé, et ils en suivent les contours avec un implacable sang-froid. La chose certaine, c'est que Maurice ne paraîtra pas devant la cour d'assises. Ils l'ont décidé ainsi. Fallut-il le poignarder dans les escaliers du palais, il ne franchira pas le seuil de la salle des séances. Quant à moi, je suis encore bien plus redoutable que Maurice. Il ne saurait point dire, en effet, à quel degré Maurice a été instruit, soit par moi, soit par Remy Darx, dans l'interrogatoire qui précéda l'ordonnance de non-lieu. Mais ils ont la certitude absolue que je connais tout. Je ne serai ni accusé ni témoin. Ce n'est pas un bâillon, c'est un linceul qu'il faut mettre sur une bouche comme la mienne. Et s'il n'avait pas besoin de moi pour tuer Maurice dans sa prison, où la loi le protège comme une cuirasse, vous auriez trouvé ici non pas une folle, mais une morte. Ah, une autre circonstance encore, cependant, doit me protéger contre eux. Je ne puis bien la définir, mais j'en ai conscience. Il y a de l'hésitation, peut-être de la dissension. Le colonel est vieux et semble très malade. Il ne faut pas croire que je sois censé s'entourer comme je l'étais tout à l'heure lors de votre venue. On vous attendait, et en outre on joue cette comédie pour la marquise. Quand la marquise est là, tout le monde se rassemble autour de mon lit, et il semble que je sois l'enfant chéri d'une nombreuse famille. Mais dès que la marquise est partie, je reste seul bien souvent et bien longtemps. Dieu merci, il n'y a guère que Francesca Corona pour me tenir compagnie le soir. Dans la journée, je n'ai personne. Vous ne pouvez avoir oublié cela. Le jour même où je devins la plus misérable des créatures, le jour où Maurice fut dénoncé par moi, arrêté devant moi, j'avais donné rendez-vous à celui que nous appelions le marchef. Vous m'aviez appris ce que vous saviez de Coyatier, et vous m'aviez dit « Prends garde ». Mais en ce qui me concernait, je ne croyais pas au danger. Tout cela me paraissait impossible, comme les mensonges des légendes, et je me reprochais presque d'avoir frayeur pour ceux que j'aimais. Cependant, il y avait eu des entrevues entre ce Coyatier et Remy Darx, pour qui je m'étonnais de ressentir une tendresse croissante. Je l'admirais, celui-là, poursuivant dans l'ombre et tout seul un juste châtiment, une grande et légitime vengeance. Je me disais, je suis forte précisément parce que ce drame est étranger à moi. Je voulais voir Coyatier pour me mettre entre lui et Remy. Mon idée était que je ne risquais rien, moi, en m'approchant d'un pareil homme, tandis qu'à ce même jeu, Remy Darx risquait sa vie. La mort lui est venue par une autre voie. C'est moi qui étais son malheur, mon frère, mon pauvre noble frère. Valentine s'arrêta un instant, suffoquée par un spasme. Ses yeux restaient secs, mais maman Léo pleurait pour deux. « Quand on m'a amené ici, reprit la jeune fille après un silence, c'était le surlendemain de la catastrophe. J'étais bien malade et ma raison chancelait réellement, car j'avais toujours devant les yeux le pâle visage de Remy apparaissant toujours entre Maurice et moi. Je m'évanouis en descendant de voiture. Ce fut Coyatier qui m'apporta jusqu'ici dans ses bras. J'ai su depuis que cette maison lui sert de refuge. Il resta seul à me regarder au salon pendant qu'on préparait mon lit. J'avais repris mes sens, mais il croyait que je dormais, et à travers mes paupières demi-closes, je voyais son rude visage penché jusque sur moi. Valentine continua. Je n'ai jamais vu de visage plus effrayant que celui de cet homme. Son regard parle de sang, on dirait qu'il a du sang sur sa joue, du sang sur ses lèvres. Et pourtant, je croyais deviner en lui, je ne sais quelle douloureuse compassion. Il disait, croyant sans doute que je ne pouvais l'entendre, « C'est un beau gaillard, et tout jeune, et déjà lieutenant, après 2 ans d'Afrique. Ils s'aiment bien, ces 2 enfants-là, puisqu'ils voulaient mourir ensemble. » Sa main rude fit bruire ses cheveux hérissés comme l'écrin d'une brosse. « Moi aussi, j'étais un soldat, » murmura-t-il d'une voix sourde. « Un brave soldat, et les journaux parlaient de moi comme de lui. » Et peut-être qu'on se souvient encore de mon nom en Afrique. C'est une femme qui a fait de moi un assassin. Je hais les femmes. » Dans sa prunelle, un feu sinistre s'alluma, mais tandis qu'il me regardait, sa paupière battit tout à coup, et il reprit, comme malgré lui, « Celle-ci est bien belle, et je lui ai fait tant de mal. » Il s'agenouilla pour border ma robe autour de mes jambes qui frissonnaient. « un mot, dit-il encore, et je pourrai lui rendre celui qu'elle aime. » Il haussa les épaules, en riant lugubrement. « J'avais compris, et vous comprenez aussi, n'est-ce pas? Quand on aime bien, on devine. Je savais ce qu'était Coyatier. Je devinais que Coyatier avait commis le crime dont Maurice était accusé. J'entends le premier crime, le meurtre de Hans Spiegel. » La dompteuse poussa un grand soupir de détresse, arrachée par l'effort épuisant qu'elle faisait pour garder son calme. « Ne bougez pas, maman Léo, » murmura Valentine, qui n'avait pas quitté un seul instant son attitude de dormeuse. « Toutes ces choses, il faut que vous les sachiez. » J'ouvris les yeux, et comme le marchef me demanda, en fronçant le sourcil, « Avez-vous entendu ?» Je lui répondis, « Oui. » Et j'ajoutai, « J'ai fait plus que vous entendre. » J'ai deviné. Nos regards se croisèrent. Ni lui, ni moi, nous ne baissâmes les yeux. « fit-il, et à quoi cela vous servira-t-il de m'avoir deviné ?»« Je ne sais, répondis-je, mais j'avais deviné aussi que vous avez pitié de moi. » Il secoua sa tête farouche et fit un mouvement comme pour s'éloigner. Cependant, il resta, et après un silence, il gronda entre ses dents serrées. Il y avait une femme dans tout cela, une femme qui voulait une robe neuve, un châle, des plumes et des fleurs. Elle m'avait dit le matin, « Si tu ne m'apportes pas 50 louis, je te chasse. » Il me regarda, frémissante que j'étais, et un sourire terrible vint à ses lèvres. « Je lui apportai les 1000 francs, » ajouta-t-il tout bas, « mais c'est moi qui l'ai chassé. »« Ah !» reprit-il en s'interrompant, « ma vie ne vaut pas cher. Je sais que je mourrai par une femme, autant que ce soit par vous que par une autre. J'ai fantaisie de vous entendre dire « Merci, marchef, c'est drôle. Demandez, on vous répondra. » Je demandai, il me répondit, « Quand on vint me chercher pour me porter dans mon lit, tenez-vous ferme, Léo, je savais que cette maison appartenait aux habits noirs. » Ma fille prononça tout bas la dompteuse sans presque bouger les lèvres, « Ce n'est pas pour moi que j'ai peur. » « Je le sais bien, » répliqua Valentine, « et comme je voudrais me jeter à votre cou pour vous serrer bien fort sur mon cœur, c'est pour moi que vous craignez, c'est pour lui, et vous voudriez crier encore « Prends garde !» Hélas, bonne Léo, il n'est plus temps de prendre garde. Il fallait risquer le tout pour le tout. J'ai tout risqué. Coyatier, jusqu'ici, a tenu sa parole. Non seulement il ne m'a rien caché, mais encore je n'ai eu qu'à parler pour être aussitôt obéi. C'est par lui que j'ai vu Maurice. Il m'a fait sortir d'ici en plein jour, par la porte qui est en reconstruction. Grâce à lui, j'ai pu être introduite à la porte de la prison. Grâce à lui encore, j'ai pu me procurer du poison. Dans la maison, en apparence du moins, personne ne s'est aperçu ni de ma sortie, ni de mon absence, qui a duré 2 grandes heures, ni de ma rentrée. Est-ce cela une chose possible ? Coyatier avait-il prévenu ses maîtres et ceux-ci ont-ils favorisé eux-mêmes mon entreprise? En d'autres termes, Coyatier a-t-il trahi les habits noirs pour moi ou Coyatier m'a-t-il trahi pour les habits noirs? Je ne sais, et que m'importe, Maurice a le poison. Maurice m'a juré sur notre amour qu'il m'attendrait pour en faire usage. En entrant dans sa cellule, et quand mon regard a rencontré le sien, j'ai cru que mon pauvre cœur allait se briser. C'était à la fois trop de douleur et trop de joie. Il m'a tendu sa main qui brûlait, je me suis jeté à son cou et j'ai voulu dire « Maurice, Maurice, je te sauverai ». Mais ses lèvres m'ont fermé la bouche et je crois l'entendre encore prononcer cette parole qui me poursuit partout. « L'espoir fait mal, n'espère pas, fleurette, fais comme moi, résigne-toi ». La veuve luttait contre les sanglots qui l'étouffaient. Il m'a demandé, poursuivit Valentine, « Pourquoi maman Léo n'est-elle pas venue ?»«
Oh, le cher enfant a-t-il douté de moi ?»«
Non, pas plus que moi. Nous avons cherché ensemble les raisons de votre absence. »
« Ah, je ne savais pas, balbutia la veuve, comment dire cela, moi qui vous aime tant. Je fermais les yeux pour ne pas vous voir trop heureux. »
« Trop heureux, » répéta Valentine, dont le regard se leva vers le ciel. « Mais le temps passe et je n'ai plus beaucoup de force. Ce n'est pas moi qui m'oppose à tout projet d'évasion, c'est lui. Il m'a dit, je n'ai fui qu'une fois dans ma vie, c'est trop, je subirai mon sort. Et tout ce que Maurice veut, je le veux. » Elle s'arrêta encore. « Est-il bien changé ?» demanda la veuve. « Non, il est très pâle. » Mais il a dans son regard une sérénité presque divine, et j'ai retrouvé son beau sourire quand il m'a dit « Si tu étais ma femme, je mourrais content. » J'ai répondu « Quoi qu'il arrive, je serai ta femme. » Le regard de la dompteuse exprima son étonnement. Valentine reprit avec un calme étrange « Ils ne s'opposeront pas à cela, j'en suis sûr. Ce qu'il leur faut, c'est notre mort prochaine. » Car si nous vivons, la main de fer qui étouffe notre voix finirait par se relâcher. Nos paroles, que personne ne voudrait entendre aujourd'hui, seraient écoutées demain peut-être. Pourvu que nous disparaissions tous les deux, ils seront cléments, comme les bourreaux qui se prêtent aux derniers caprices des condamnés. » Sa tête pesa plus lourde sur l'épaule de la veuve, qui sentit en même temps sa main devenir froide, et qui dit « Il faut te remettre au lit, fillette. » « Oui, répliqua Valentine, désormais vous en savez assez, bonne Léo. Le papier que je vous ai remis et que vous lirez attentivement vous dira ce qui vous reste à faire. Encore un mot, pourtant, quand vous me quitterez, ils vont vous reprendre en sous-œuvre pour l'évasion de Maurice. Promettez tout ce qu'on demandera, dites que vous m'avez à demi persuadé et que vous êtes bien sûr de persuader tout à fait le pauvre prisonnier. » Ajoutez que vous voulez aller à la force dès demain. Je ne vous cache pas que nous entamons ici la plus terrible de toutes les parties. Leur intérêt est de mener à bien cette évasion, mais je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi, dans leur pensée, cette évasion doit aboutir. Ne craignez rien, allez droit à votre route. Vous ne resterez jamais sans instruction, et vous me verrez désormais plus souvent que vous ne croyez. » Elle s'interrompit presque gaiement pour ajouter « Maintenant, Léo, nous n'avons plus qu'à tromper l'espion qui nous guette. Vous êtes juste ce qu'il faut pour cela, et en vérité, quand même aucun regard ne serait fixé sur vous. Je suis morte de fatigue et je ne sais pas si je pourrais regagner mon lit sans votre aide. » Elle sourit et ajouta encore « Vous avez vu les nourrices endormir les petits-enfants dans leurs bras. Quand le sommeil est enfin venu, elles emportent doucement le nourrisson dans son berceau, et quelles précautions elles prennent. Faites comme elles, bonne Léo, emportez-moi, et surtout, prenez garde de m'éveiller. » Son sourire était contagieux. Il y eut comme un reflet sur le visage désolé de la dompteuse qui avait compris. Et ce fut une scène si bien jouée que le coq y fut aux trois quarts pris derrière son rideau. Avec une délicatesse infinie, maman Léo dégagea son épaule qui soutenait la tête de la jeune fille, puis elle se pencha sur elle, comme pour bien constater qu'elle était endormie, et puis encore elle la souleva aussi aisément que si c'eût été un enfant et la reporta sur le lit où Valentine demeura immobile. Madame Samaillou s'essuya les yeux avant de border la couverture. Quand la couverture fut bordée, elle joignit les mains et dit avec tristesse « Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour cette pauvre biche-là de rester chez moi à la baraque ?»«
Ah ça !» se dit le coq en quittant sa cachette. « J'ai perdu une grosse demi-heure ici, moi. Est-ce qu'elle se met à jouer la comédie en foire aussi parfaitement qu'au théâtre français ?» Au moment où il s'éloignait sans bruit, mais pas assez légèrement pourtant pour que l'oreille aux aguets de la dompteuse ne perçût vaguement l'écho de son pas, la porte par où Madame la Marquise d'Ornans et son cercle étaient sortis s'ouvrit. « Eh bien, demanda la comtesse Corona sur le seuil, avons-nous dit tous nos grands secrets ?»«
Chut !» fit Madame Samaillou qui se retourna, « elle s'est endormie en parlant de lui. »
La comtesse traversa la chambre sur la pointe des pieds et vint jusqu'au lit. Elle baisa la main de Valentine qui était glacée et fixa sur la dompteuse un regard triste et doux. « Il s'aime bien, murmura-t-elle, et celui qui est mort l'adorait. Sa folie est de penser que Remy d'Arc était son frère. Vous a-t-elle parlé de cela ?»«
Oui, répondit la dompteuse.
Vous qui la connaissez depuis longtemps, pensez-vous qu'elle puisse être vraiment la sœur de Remy d'Arc ?»
« Quand je la connaissais, repartit la dompteuse, elle s'appelait Fleurette. Je ne me doutais pas qu'elle avait un frère, mais je ne me doutais pas non plus qu'elle fût la parente d'une noble marquise et d'un colonel.
C'est juste, fit la comtesse. Elle ajouta, comme malgré elle, « On vous a payé, n'est-ce pas, en ce temps-là » La veuve lui saisit les deux mains brusquement, et ses joues étaient en feu.
« Elle a confiance en vous, dit-elle, et c'est une belle âme qui est dans vos yeux. »
« Écoutez, je suis une pauvre femme, une misérable créature qui a peut-être fait du mal. Oui, on m'a donné de l'argent, et je ne l'avais pas gagné. Oui, on est venu la chercher chez moi, et j'ai peut-être eu le tort de croire trop vite. Mais elle avait si bien l'air de la fille d'une grande maison. Et comment penser que des gens comme cela auraient voulu me tromper ? Si vous savez quelque chose qui puisse m'aider à réparer ma faute, je vous en prie, dites-le-moi. »
La comtesse avait baissé les yeux. Elle répondit froidement, « Je ne sais rien, bonne dame. Quand Valentine vint à la maison, voici 2 ans, on me dit qu'elle était ma cousine et je l'aimais comme une sœur. Remy d'Arc était pour moi un ami, presque un frère. Il y a une énigme au fond du deuil que nous portons, je n'en ai pas le mot. Il y a aussi une énigme inexplicable, dans la position de ce jeune homme auquel tous nos amis semblent s'intéresser, malgré son crime. »
« Oh !» s'écria la dompteuse, « celui-là est innocent, je vous le jure devant Dieu !»«
C'est ainsi que parla Valentine, » dit la comtesse d'un air pensif, « le jour même où on arrêta Maurice Pagès, tout sanglant encore, à quelques pas de la maison où le meurtre avait été commis. Je ne suis pas juge, madame, et depuis mon enfance, je vis au milieu de mystères encore plus insondables que celui-là. »
« Au nom du ciel !» commença la veuve qui la regardait avidement. « Dites-moi !»
Francesca Corona secoua sa tête charmante avec lenteur.
« Ne m'interrogez pas, répliqua-t-elle, ce serait inutile. Je n'ai rien compris, je n'ai rien deviné, sinon mon propre malheur, qui m'accable et dont je ne dois compte à personne. Si ce jeune homme est innocent, que Dieu le sauve, puisqu'il s'aime, qu'il soit heureux. Venez, madame, on vous attend au salon et chacun semble espérer en votre entremise pour atteindre un résultat favorable. » « Je vais vous conduire, et je reviendrai garder Valentine, que j'aime mieux depuis qu'elle souffre. » Elle se dirigea vers la porte.
Un mot vint jusqu'aux lèvres de la dompteuse qui allait parler, lorsqu'elle sentit une main glacée qui touchait la sienne. Elle se retourna vers le lit et rencontra les yeux grands ouverts de Valentine qui avait un doigt sur ses lèvres. Maman Léo n'eut garde de désobéir à l'ordre muet que lui donnait Valentine. Elle suivit la comtesse Corona sans ajouter une parole. Celle-ci la conduisait jusqu'à la porte du salon, située à l'étage inférieur. Maman Léo aurait voulu la route de plus longue, car elle avait grand besoin de réfléchir. Pour comprendre ce qui était en elle, il faut entrer dans sa situation morale et ne point oublier le milieu où se passait sa vie ordinaire. Elle venait d'éprouver, sans secousse apparente, puisqu'elle avait été forcée de supprimer toute marque extérieure d'émotion, un des chocs les plus violents que puisse subir une créature humaine. D'autres à sa place auraient eu pour sauvegarde, dans le premier moment du moins, le doute ou l'incrédulité. Mais, nous l'avons dit bien souvent, au fond de cette pauvre bohème de la foire, où Madame Veuve Samaillou tenait un rang considérable, les légendes du crime sont connues et en quelque sorte honorées, comme pouvaient l'être chez les païens les légendes de la mythologie.
Ces sombres poèmes du crime impossible courent non seulement les établissements forains, mais encore toutes les mansardes et toutes les masures d'où sort le public qui fait vivre la foire. Dans les veillées de ces campagnes bizarres qui sont dans Paris, mais qui sont en même temps si loin et si fort au-dessous de Paris, il y a des bardes comme en Irlande, des improvisateurs comme à Naples, des troubadours comme il y en avait dans toute l'Europe au Moyen-Âge. Et de même que les bardes chantent l'épée et les trouvères la lance, c'est toujours le couteau qui est au fond de la sauvage Iliade, des rhapsodes de la misère. En Basse-Bretagne, vous pouvez parler de Corrigan sans expliquer le mot, en Irlande des âmes doubles, et partout le pays scandinave des elfes et des gobelins. Sous le règne de Louis-Philippe, dans aucun allié de la forêt parisienne, on ne vous aurait fait répéter deux fois le nom des habits noirs. Chacun savait ce que cette alliance de mots voulait dire, chacun du moins croyait le savoir, car il y avait ici de nombreuses variantes, comme dans toutes les mythologies. Mais au-dessus des variantes, une chose surnageait, qui était le fond de la superstition populaire. Chacun croyait à une sorte de franc-maçonnerie, constituée selon l'échelle même de la société humaine, c'est-à-dire ayant sa noblesse, sa bourgeoisie, son peuple. Chacun croyait que les soldats de cette fantastique armée étaient innombrables, que les officiers en étaient nombreux et que les généraux s'asseyaient, paisibles, au plus haut sommet de nos inégalités sociales, abrités qu'ils étaient contre les clairvoyances de la loi par je ne sais quel nuage magique. Voilà pourquoi Valentine, s'adressant à maman Léo, avait parlé des habits noirs sans souligner l'expression et avec la certitude d'être comprise. Voilà pourquoi aussi maman Léo, par-dessus la grande émotion provoquée en elle par la scène qui venait d'avoir lieu et dans laquelle son pauvre cœur avait été remué dans ses fibres les plus profondes, gardait cependant un trouble qui n'avait trait immédiatement ni à sa chère Fleurette ni à son adoré Maurice. Les habits noirs, les hommes de la puissance inconnue et du crime éternellement impunis, les habits noirs, ces fantômes homicides que tant de récits à faire peur lui avaient montrés, rôdant parmi le silence des nuits parisiennes. Elle avait vu les habits noirs, elle était dans la maison des habits noirs. La foi est une étrange chose. Il est certain qu'on peut croire et ne pas croire en même temps, puisque les plus crédules sont stupéfaits souvent quand ils se trouvent à l'improviste en face de l'objet de leur crédulité. En descendant l'escalier qui menait de la chambre occupée par Valentine au salon du docteur Samuel, maman Léo se disait « Monsieur Constant en est, et ça ne m'étonne pas, car il a une figure qui ressemble à un masque. Mais ces vieux messieurs ont l'air si respectables, un colonel, un prince, et que penser de la marquise elle-même, car Fleurette a beau dire, qui se ressemble s'assemble, et je me méfie de tout le monde ici. » Elle essayait de se faire une règle de conduite, mais tout tournait dans son cerveau. Et voyez le trait caractéristique. À un certain moment, ne sachant à quel saint se vouer, elle eut l'idée de s'adresser à la justice. Mais ce fut pour elle le symptôme du découragement poussé jusqu'à la folie. Elle haussa les épaules avec colère et se dit « Puisque je patauge comme cela, nous sommes donc perdus tout à fait. » Car il ne croit pas à la justice. Et de lugubres exceptions que leur ignorance érige en règle leur font craindre les juges. Quand ils regardent en haut, le bien leur échappe, ils ne voient que le mal grandir outre mesure. C'est la vengeance des vaincus. On doit leur savoir gré peut-être de ne pas écraser sous le poids de leur multitude de cette infime minorité d'heureux à laquelle ils attribuent, faussement il est vrai, l'incurable maladie de leur misère. La comtesse Corona ouvrit la porte du salon et dit « Voilà la bonne Madame Samaillou, notre Valentine d'or. » Maman Léo passa le seuil et entendit qu'on refermait la porte. Elle était comme ivre. Autour d'elle, tous les objets dansaient en tournoyant. Mais ce fut l'affaire d'un instant, car elle était la vaillance même, et malgré la simplicité de sa nature, elle avait, à l'heure du péril, le sang-froid, l'adresse et la présence d'esprit d'une vraie femme. Elle reconnut autour de la cheminée du salon toutes les figures qui naguère étaient rassemblées dans la chambre de la malade. Il y avait en plus un personnage qui lui était inconnu et qui causait tout bas avec le colonel Bozzo. En entrant, elle put entendre la marquise reprocher un retard ou une absence à ce nouveau venu qu'elle appela monsieur le baron de la Perrière. À cet instant, madame Léo avait déjà dompté en grande partie son horreur et sa frayeur. Comme il arrive à tout bon soldat, la présence de l'ennemi lui rendait son courage. En outre, le sentiment de curiosité si vif dans les classes populaires, où il y a toujours de l'enfant, s'éveilla en elle brusquement. Aussitôt qu'elle cessa d'avoir peur, elle eut envie de savoir et de voir. Son regard fit le tour de l'assemblée, et certes, chaque visage fut jugé par elle tout autrement que la première fois. Rien ne perçait au dehors de ce qui l'agitait intérieurement. Il y avait un pied de rouge sur ses bonnes de grosses joues, mais c'était assez l'habitude, et d'ailleurs chacun pouvait faire la part du trouble tout naturel éprouvé par une femme de sa sorte, admise dans un monde si fort au-dessus d'elle. Un peu de crainte et beaucoup de respect étaient assurément de mise. Madame la marquise d'Ornans vint la prendre par la main, et tout le monde l'entoura, excepté le colonel Bozzo, qui garda sa place, continuant de causer à voix basse avec monsieur le baron de la Perrière. Mais s'il ne se dérangea pas, il envoya du moins un signe protecteur et amical à la veuve, qui se dit « C'est bon, vieux gredin, fais tes manières. Si on peut te servir comme tu le mérites, n'aie pas d'inquiétude, ce sera de bon cœur. » « Nous pouvons causer ici librement, bonne madame, dit la marquise. Vous savez l'épouvantable malheur qui est tombé sur ma maison. Tout le monde dans ce salon m'est dévoué, tout le monde chérit la pauvre enfant qui est en haut. » Dans son infortune, répondit la veuve, la petite est bien heureuse d'avoir tant de puissants protecteurs. Elle s'exprime très bien, murmura monsieur de Saint-Louis. Trouvez donc ailleurs qu'en France un pareil niveau intellectuel dans les rangs du peuple. Ah, fit la marquise, si ce peuple dont vous parlez si bien pouvait vous connaître et vous entendre. Samuel, le maître de la maison, et monsieur Portal Girard, le docteur en droit, approuvèrent du bonnet et se rapprochèrent du groupe formé par le colonel causant avec monsieur de la Perrière. En les regardant s'éloigner, maman Léo pensait, en voilà deux que je reconnaîtrai. Mais où donc est passé le Constant? Voyons, fit la marquise qui lui présenta un siège, racontez-nous tout ce que vous avez fait. Maman Léo avait eu le temps de réfléchir, et son instinct lui disait qu'il fallait se rapprocher le plus possible de la vérité à cause de l'espion caché derrière le rideau et qui pouvait bien être monsieur le baron de la Perrière. Ah, j'ai d'abord été dans tous mes états, répondit-elle, et vous allez juger pourquoi. N'a-t-elle pas eu la fantaisie de se lever aussitôt que vous avez été parti? J'ai voulu vous rappeler, mais pas moyen, elle m'a mis ses deux petites mains sur la bouche comme un démon, et il a fallu l'envelopper pour l'emporter vers le foyer. Elle disait « J'ai froid, j'ai froid ». Son regard glissa vers l'autre coin de la cheminée et se rencontra avec celui de monsieur le baron. « Tiens, tiens, pensa-t-elle, j'ai déjà vu ces yeux-là. » Mais c'est pire qu'au théâtre ici, ils doivent se grimer à volonté.
Est-ce vrai ce qu'elle dit là, monsieur Lecoq? Demanda tout bas le colonel au baron.
Vrai de point en point, papa, répondit monsieur de la Perrière. Si la petite n'a pas parlé, je vous garantis que la bonne femme marchera droit, car je n'ai pas perdu mon temps avec elle à la baraque. Vous savez si j'endoctrine mon monde comme il faut quand je m'y mets.
« Tu es une perle, l'amitié, murmura le vieillard, et quand je vais te laisser mon héritage, je n'aurai pas d'inquiétude pour l'avenir de l'association.
Il est une quinte de tout pénible à entendre. » Le docteur qui arrivait justement lui tapota le dos en disant « Cela sonne mieux, nous n'en avons pas désormais pour une semaine. » Pendant que le vieillard essuyait son front en sueur, les deux docteurs et le coq échangèrent un sourire d'intelligence qui donnait à ces mots « Nous n'en avons pas pour une semaine » une signification très accentuée. Maman Léo, cependant, continuait, parlant à la marquise et à monsieur de Saint-Louis. « Elle m'embrassait comme pour du pain, et le nom de Maurice venait à chaque instant sur ses lèvres. Moi, je ne savais plus où j'en étais. Ça me déchire le cœur de voir ces deux enfants-là dans la peine. »«
Vous a-t-elle parlé de Remy d'Arc ?» s'interrompit la marquise.
« Je crois bien, son frère, comme elle l'appelle maintenant. Pour folle, c'est bien certain qu'elle est folle. Non, pas tout à fait, rectifia monsieur de Saint-Louis. Le docteur Samuel nous a expliqué les différents degrés de l'aliénation mentale, et à cet égard, il est la première autorité de Paris. Il y a chez notre cher enfant un trouble cérébral dont la cause est connue et déterminée. Et la cause cessant, ajouta la marquise avec vivacité, le trouble disparaîtra de même. Que Dieu vous entende, madame, dit maman Léo, et ça me console bien de voir comme elle est aimée. Aussi, il n'y a plus de métier qui tienne, allez, je suis désormais à vos ordres du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Madame Dornan lui prit la main de nouveau. Vous serez récompensée, voulut-elle dire. Pas de ça, Lisette, s'écria la veuve, si vous parlez latin, je ne vous comprends plus. Excellente femme, murmura la marquise. Magnifique peuple, soupira monsieur de Saint-Louis. Il y a donc, reprit maman Léo, en vous demandant bien pardon de ce qui vient de m'échapper, que je voulais la prêcher, comme vous me l'aviez ordonné, et que je ne savais pas par où commencer mon sermon. Elle était si gentille entre mes bras, je perdais mon temps à l'admirer, comme un vieil enfant que je suis, et je me disais, ah, si Dieu avait voulu, comme il serait heureux. Et vous pensez bien que ça m'a ramené à mon ouvrage, car il faut que Dieu le veuille, pas vrai, il faut qu'il soit heureux. J'ai donc pris la chose de longueur, disant que la liberté est le premier de tous les biens sur la terre, et que, si on laisse les juges faire leur boniment, numéroter leur paperasse, entortiller leur jury, Bernic, le diable lui-même, ne peut pas y revenir. Et tous les exemples à l'appui, qui sont nombreux, et où je n'avais qu'à choisir. Elle m'écoutait en fixant sur moi ses grands yeux mouillés. Elle répétait toujours « Il est innocent, il est innocent !» Parbleu, ai-je fait, Jésus aussi était innocent, et il a été pas moins crucifié entre les deux larrons. « Ah, bonne âme !» dit encore la marquise, sincèrement émue. Et monsieur de Saint-Louis, « Ah, l'éloquence populaire en France a de ces ressources-là » En un mot comme en mille, poursuivit la dompteuse, ça ne lui faisait pas autant d'effet que je l'aurais voulu. La pauvre Minette était tout engourdie à force d'avoir souffert et pleuré toutes les larmes de son corps. Alors l'idée m'est venue d'aller dans le sens de sa fêlure, et je lui ai dit, s'il meurt, tu mourras, pas vrai? Ah, qu'elle m'a répondu, j'en suis bien sûr, et c'est là mon seul espoir. Eh bien alors, qui vengera ton frère? Ses yeux se sont allumés pendant qu'elle disait « Remy, mon cher pauvre Remy !» La marquise écoutait avec une attention passionnée. Monsieur de Saint-Louis hocha la tête en manière d'approbation, mais une nuance de pâleur éteignit le vermillon de son teint. Les deux docteurs, le colonel et monsieur de la Perrière, qui étaient toujours à l'autre coin de la cheminée, cessèrent tout à coup de causer pour prêter l'oreille. « Elle était prise, poursuivit la dompteuse. Je l'ai vue tout de suite. Quand je suis revenue à son Maurice, elle a pleuré à chaudes larmes. Et moi aussi, comme vous pensez. »« Je veux être pendu, dit tout bas le coq à ses voisins, si j'ai rien vu, rien entendu de tout cela. » La veuve continuait. « Elle est si faible, si brisée. De pleurer, ça l'a endormie tout de suite. Elle a renversé sa chère belle tête sur mon épaule. » Voilà le vrai, dit encore le coq. Et ses paupières ont battu, acheva maman Léo. Mais avant de fermer les yeux, elle m'a dit, j'ai confiance en moi, tu as été ma mère et tu l'aimes comme s'il était ton fils. Et si je lui dis, je veux que tu vives, il se laissera sauver, et il faut qu'il vive pour notre amour comme pour notre vengeance. La voix faible et douce du colonel Bozzo se fit entendre à l'autre bout de la cheminée, disant, drôle de fillette. Ce fut un regard de colère que la bonne marquise lui jeta, mais le vieillard lui renvoya un sourire. Il était assis commodément dans sa bergère, caressant de sa main blanchette et ridée une petite boîte d'or sur laquelle était le portrait émaillé de l'empereur de Russie. « Bon ami, murmura-t-il, en s'adressant à la marquise avec un signe de tête caressant, « Vous vous fâchiez déjà autrefois quand je radotais ce mot « drôle de fillette », mais sous mon radotage, il y a souvent bien des choses. Cet enfant-là a trompé des calculs supérieurement faits, et dès qu'il s'agit d'elle, je dis cela pour nos amis comme pour vous, il ne faut pas se fier aux apparences. » Il s'interrompit pour ajouter, en regardant paternellement ses trois voisins qui éprouvèrent une sorte de malaise.
« C'est comme moi, mes chers enfants, je suis aussi un drôle de bonhomme. »
Il ouvrit sa boîte d'or, prit quelques grains de tabac au bout de son index et les flaira à distance d'un air content. La dompteuse n'était pas très forte en diplomatie, et pourtant ce petit bout de scène ne passa point inaperçu pour elle.
« Monsieur le colonel a bien raison, dit-elle, d'autant qu'il n'a rien voulu dire contre l'enfant, j'en suis bien sûr. Elle a toujours eu un drôle de caractère, et il m'est arrivé plus d'une fois dans le temps de jeter ma langue au chien quand j'essayais de la comprendre. Pour revenir à nos moutons, elle s'est donc endormie comme un bel ange du bon Dieu, et à mesure qu'elle s'endormait, un sourire de chérubin naissait sur ses lèvres, qui se mirent à remuer et qui dirent comme en rêve « Nous serons heureux, nous nous marierons tout de suite, tout de suite. »
Maman Léo s'arrêta et regarda la marquise en face.
« Voilà, ma bonne dame, acheva-t-elle, j'ai fait ce que j'ai pu. »
« Vous avez bien fait, répondit la marquise, vous nous avez rendu espoir, et tous ceux qui sont ici vous remercient. »
« Alors, demanda la veuve en baissant la voix, le rêve de la chérie pourrait se réaliser, ils seraient heureux ensemble, vous consentiriez à ce mariage ?»
La marquise hésita, puis elle répondit avec gravité, « Je n'ai plus d'enfant, elle est tout mon cœur. » Je ne sais pas jusqu'où peut descendre ma faiblesse pour elle, mais je crois que si elle l'exige, j'irai jusqu'à ne point m'opposer à ce mariage.
Ah, sacredier! S'écria maman Léo, qui sauta sur ses pieds. Les nobles ne passent pas pour des braves gens chez nous, mais vous êtes un cœur, vous, ou que le diable m'emporte.
Elle avait jeté ses deux bras autour du cou de la marquise, un peu effrayée, pour planter sur ses joues deux retentissants baisers.
« Bien des pardons, murmura-t-elle en se reculant confuse, mais il a fallu que ça parte, je n'ai pas pu m'en empêcher. »
Madame la marquise d'Ornans riait en rajustant sa coiffure. Samuel, le docteur en droit et monsieur le baron de la Perrière s'étaient rapprochés du prince qui regardait cette scène avec attendrissement et murmurait « Le peuple, ah, le peuple français !» Le colonel Bozzo restait seul au coin de la cheminée.
« Il y a donc, reprit maman Léo, que je suis à vous, quoi, corps et âme, et que je me jetterai au feu, s'il le faut, pour vous être agréable. »
Comme elle l'achevait, son regard, en quittant la marquise, rencontra les quatre pères dieux des habits noirs, qui la guettaient fixement. Elle ne broncha pas et fit la révérence en ajoutant, « Comme de juste, je suis aussi tout au service de la compagnie. Voyons, usez de moi, que faut-il faire ?» On entendit derrière le cercle la petite toux du bon vieux colonel, et ceux qui le masquaient s'écartèrent aussitôt avec respect.
« Merci, mes amis, dit-il, j'aime à voir ceux à qui je parle, et vous me gêniez, car je n'ai plus ma voix de 20 ans. C'est moi qui ai eu la première idée de faire venir cette excellente madame Samaillou. C'est moi, si vous le permettez, qui lui donnerai ses instructions. »
Tous les hommes s'inclinèrent en silence, et la marquise dit, dans la sincérité de sa foi,
« J'allais vous en prier, bon ami, car vous êtes notre meilleur conseil.
« Désormais, reprit le colonel Bozzo, il faut que les choses marchent vite, car la session des assises va s'ouvrir cette semaine. Pouvez-vous être à notre disposition toute la journée de demain, chère madame ?»«
Toute la journée de demain, répliqua la veuve, et toutes les autres journées, tant qu'on aura besoin de moi. »
« C'est parfait, nous trouverons bien moyen de vous témoigner notre reconnaissance sans blesser votre honorable fierté.
Demain donc, à la première heure, vous vous rendrez au cabinet de monsieur le juge d'instruction, Perrin Champin, qui est très matinal, et vous lui demanderez un permis pour voir le lieutenant Maurice Pagès à la maison de la force.
Mais si le juge d'instruction me refuse, soyez tranquille, on aura fait le nécessaire pour que le juge d'instruction ne vous refuse pas. Il passe pour un homme singulièrement habile, et je m'étonne que vous n'ayez pas encore été interrogé.
« Oh, je ferai bien des lieux en temps ordinaire, dit la dompteuse, pour éviter cette opération-là. Je n'aime ni les juges ni les huissiers. Moi, c'est pas ma faute. Mais j'irai tout de même, et si on m'interroge, je parlerai la bouche ouverte. Quand j'aurai le permis, bien entendu, j'irai voir Maurice. Que faudra-t-il faire chez Maurice ?»
à peu près ce que vous venez de faire chez Valentine. Vous parlerez au nom de Valentine, vous direz « Pourquoi vous faire la leçon? Nous avons pu vous apprécier. Nous savons quelle affection délicate et profonde vous portez à ce malheureux jeune homme. Vous ne nous croiriez pas, madame, si nous prétendions partager cette tendresse. C'est un inconnu pour nous et un indifférent. Il y a plus, s'il ne nous était pas nécessaire comme moyen de salut pour mademoiselle de Villanove, notre intérêt, notre devoir, peut-être, serait de l'écarter. Mais nous aimons Valentine comme vous aimez Maurice. Valentine est le dernier espoir de notre bien-aimée marquise. Cela suffit pour que rien ne nous coûte. » La dompteuse le regarda bonnement et dit « Ça fait plaisir de voir la franchise que vous avez, et le pauvre gars doit tout de même une belle chandelle au bon Dieu qui lui a laissé des protections pareilles dans son malheur. « Vous serez éloquente, poursuivit le colonel, nous n'avons aucune crainte à cet égard, mais appuyez bien sur cet argument tiré de l'arrêt prononcé par le docteur Samuel. La vie de Valentine est entre les mains de Maurice, il peut à son gré la ressusciter ou la tuer. » « Je l'ai dit, déclara solennellement le colonel, et je le répète, c'est ma conviction intime. » « Soyez tranquille, dit la veuve, je n'oublierai pas votre argument, mais il y en a un autre que je préfère pour ma part, c'est celui qui m'a été fourni par madame la marquise. Quand Maurice va savoir qu'il peut espérer la main de Valentine... » Elle s'interrompit, et son regard interrogea madame Dornan, qui murmura « Quand je devrais quitter la France et m'établir en pays étranger, je ne me dédie pas, je n'ai plus qu'elle sur la terre. » « Alors, s'écria maman Léo, tout est convenu. Vous savez où me trouver pour que je vous rende compte de ma mission. À demain, et bonsoir la compagnie. » La marquise se leva et lui tendit la main. « Où donc est monsieur Constant ? » demanda-t-elle. « Il a repris son service, répondit le docteur Samuel. « Ah, je puis très bien, dit le baron de la Perrière en s'avançant, reconduire la bonne madame Samaillou. » « Oh, fit la veuve, M. Constant encore passe, mais un baron, craignez-vous que je me perde? Voilà, si vous voulez que nous soyons tout à fait amis, il faut garder chacun notre place. Menez-moi seulement jusqu'à la porte du dehors, parce que je ne saurais pas retrouver ma route, mais une fois dans le chemin des batailles, ne vous inquiétez plus de moi. Quand les rôdeurs et moi nous nous rencontrons, c'est moi qui fais peur aux rôdeurs. » Elle refusa le bras que le baron lui offrit galamment et sortit la première. « Bon ami, dit le colonel quand elle fut dehors, je crois que nous avons fait ce soir d'excellentes besognes. Voulez-vous que je vous remette à votre hôtel en passant? Je tombe de sommeil. » Madame Dornan avait appuyé sa tête sur sa main. « Vous êtes vraiment un des hommes les plus véritablement sages que j'ai rencontrés en ma vie, murmura-t-elle d'un air pensif. « Si vous n'étiez pas là, si je ne vous voyais mêlé à toutes ces aventures impossibles, je croirais que je rêve. »« Il me semble, dit monsieur de Saint-Louis, que je ne suis pas non plus un petit fou, madame. »« C'est vrai. Pardonnez-moi, cher prince. Venez-vous avec nous ?»« Non, répondit monsieur de Saint-Louis, qui évita le regard du colonel. J'ai à causer avec monsieur de la Perrière. » « Moi, dit Portal Girard, le docteur en droit, je suis comme un médecin qui, à bout de remède, aurait conseillé une fontaine miraculeuse ou des reliques. Madame la marquise ne me regarde plus depuis que j'ai ouvert la vie de l'évasion. » « Puisque c'est l'unique ressource, commença madame Dornan. » Le colonel l'interrompit pour dire avec dignité « Le médecin qui avoue son impuissance est un honnête homme, monsieur Portal Girard. On ne peut jamais rien reprocher de pareil au charlatan. Nous avons assez mis dans la vérité de la situation et madame la marquise vous en remercie. » Il voulut offrir son bras à cette dernière, mais comme ses pauvres jambes flageolaient terriblement, ce fut la marquise elle-même qui le soutint pour gagner la porte. « Je vous recommande bien la chère enfant, dit-elle, avant de passer le seuil. « Et gare à vous, prince, ajouta le colonel avec l'espièglerie d'un enfant. « Monsieur de la Perrière me dira les petits secrets que vous avez ensemble. » Ils sortirent tous deux. Monsieur de Saint-Louis, Portal Girard et le docteur Samuel se regardèrent. Ils étaient pâles tous les trois. « Le coq est-il convoqué ? Demanda monsieur de Saint-Louis. Oui, répondit Portal Girard, pour ce soir, dans 1 heure, au boulevard du Temple.
C'est chanceux, murmura Samuel.
Comme toutes les parties, répliqua le docteur en droit d'un ton calme et résolu, c'est un coup de dé. Il s'agit de voir si nous mourrons misérables comme des mendiants, ou si nous vivrons plus riches que des rois.